BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre piste de décollage rien qu'à vous, votre aéroport privé pour faire décoller vos performances. BFM Bourse vous accompagne jusqu'à 18h. Bienvenue à tous et notre première étape de vol nous emmène à la Tour Euronext. Du haut de la Tour Euronext, Étienne Bras contemple les marchés européens. Rebonjour Étienne, comment vont-ils et comment va le CAC 40 ?
Bonjour à tous. Du rouge, troisième séance dans le rouge pour le CAC 40 qui est sous les 7600 points, 7570 points. Des volumes d'échanges qui sont faibles, un marché qui est un petit peu perdu à l'approche des résultats semestriels, des doutes au niveau politique et également à l'approche des élections législatives. Tout ça invite à la prudence, des volumes d'échanges qui sont particulièrement faibles aujourd'hui. Et puis du côté de Wall Street, à noter que vous avez le Nasdaq qui se reprend après sa petite sous-performance d'hier grâce notamment à Amazon qui est au-delà des 2000 milliards de valorisation boursière.
Effectivement, on va en parler d'ailleurs d'Amazon, effectivement. Et puis quand même, ces tensions qui s'accroissent sur le marché vis-à-vis de la France. On est à trois jours maintenant des législatives. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui stagnait cet écart de taux depuis une grosse semaine, cette fois il s'amplifie et on repasse la barre des 80 points d'écart de taux là. 84 points ! 84 points. À l'instant, c'est l'écart de taux entre les 10 ans français et allemands. On a aussi un indice de volatilité sur le marché parisien qui augmente. Ça, c'est Romain Daubry qui nous l'expliquera à 16h. Bref, quelle perspective? Comment construire son portefeuille malgré les vents contraires et les incertitudes? On va essayer de vous apporter un maximum de clés. Du côté des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump fourbissent leurs armes. Ce soir, premier grand débat télévisé dans la campagne présidentielle américaine. On va vous apporter des clés de compréhension, les enjeux économiques notamment, ce qui sépare les deux programmes sur le front économique. Et puis à 17h35 tout à l'heure, notre promesse quotidienne. C'est le portefeuille idéal de BFM Bourse. Des idées de valeur si vous souhaitez compléter vos investissements parce qu'on est à vos côtés, qu'on joue dans votre camp. C'est parti.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Une valeur se distingue aujourd'hui sur le marché américain, c'est Micron, le géant des puces. Alors dans l'intelligence artificielle, ça va, mais le problème c'est que Micron a parmi ses clients aussi de vieux acteurs qui déçoivent en termes de performance, si bien que Micron, malgré des perspectives conformes aux attentes élevées de Wall Street, Micron recule nettement. On en parlait avec John Plassard, l'IA ne suffit plus désormais pour voir les valeurs progresser. John Plassard dans USA Today, c'était en direct. Si vous l'avez raté, le replay, ça y est disponible. Vous savez où le trouver ? Sur notre application BFM Business, ça y est, le replay est en ligne, n'hésitez pas. Étienne, vous nous le disiez, notre CAC 40 enchaîne aujourd'hui une troisième baisse d'affilée.
Ce qui n'est pas arrivé depuis quasiment 15 jours. Vous avez un CAC qui est sur des plus bas de 10 séances à 7571 points. Il cède 0,5% ce CAC 40 dans des volumes d'échanges qui sont faibles. 1,2 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. Alors demain, ça sera la dernière séance du mois. Pour l'instant, sur l'ensemble du mois de juin, vous avez un indice qui perd 5%. Sur l'ensemble de la semaine, 0,7%. Depuis le 1er janvier, retour à la case départ, plus 0,4%. À noter des initiatives qui sont faibles. Stellantis est là où aujourd'hui, la plus forte baisse du CAC 40, moins 3% à 18,75 euros. Le groupe qui, souvenez-vous, avait présenté ses perspectives lors de sa journée investisseur il y a une dizaine de jours, peine toujours à remonter la pente. À l'inverse, ça se passe très bien pour Kering, qui gagne 4,6%, avec notamment des investisseurs qui revoient un petit peu leur objectif de cours sur la valeur. 341 euros à l'instant pour Kering, la maison mère de Gucci. TD Performance continue de surperformer, comme depuis le début de la semaine, plus 1% au-delà des 101 euros. Unibail, plus 1%. Safran également reprend 0,8%. À noter que le marché continue de se chercher un petit peu à l'approche des législatives. Et puis surtout, comme c'est l'avant-dernière séance du mois de juin, les investisseurs ont un petit peu tendance à expédier les affaires courantes. Hein. Pas de grandes initiatives avant également les résultats semestriels. D'autant plus que les premières communications, dans un instant nous parlerons d'H&M, ne sont pas très bonnes. On l'a vu également aux États-Unis avec Walgreens, avec Levi's. Et puis regardez encore la réaction de Airbus en début de semaine. Hein. Dès qu'il y a une mauvaise semaine, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est moins 10%. Le marché ne fait pas de cadeau en ce moment. À noter que l'obligataire se stabilise à 3,18 contre 2,44 pour le 10 ans américain. Un spread qui est toujours légèrement au-delà des 70 points de base. Quand l'euro, de son côté, retrouve la barre des 1,07. Bonne nouvelle, 1,0720 pour cette parité euro-dollar.
Effectivement. Tiens, Gwenaël Lessing nous accompagne en fil rouge cet après-midi depuis les bureaux de Swissag, mon privé. Rebonjour Gwenaël. Il y a une valeur qui se distingue aujourd'hui à Paris. On va la voir apparaître pour ceux qui nous suivent à la radio. On est aussi à la télé. Ce titre, c'est plus 12-13% même, OVH Cloud qui a publié aujourd'hui ses résultats portés par une hausse des dépenses des acteurs de la tech aux États-Unis, mais pas que, plus 13%. Est-ce qu'on assiste, ça y est, au vrai réveil d'OVH Cloud en bourse, d'après vous, Gwenaël ?
J'aimerais bien, mais je serais un peu plus dithyrant. Faudra attendre un petit peu plus de confirmation, en fait. Hein, parce que, OK, elle a fait un troisième trimestre un peu supérieur aux attentes. mais elle fait plus 9% au troisième trimestre, donc c'est pas mal, mais il faut quand même se souvenir qu'au T1, elle avait fait 12, au T2, elle avait fait 10, donc on les recoupe, on est quand même plutôt dans une situation de baisse un peu. On trouve qu'il y a toujours des décalages dans les projets de la part des entreprises pour la montée dans le cloud public. Il y a la décroissance de sous-segments de connectivité et des fournis dans le web cloud. Alors après, c'est vrai qu'elle est tellement peu chère, est-ce qu'il n'y a pas aussi des grands groupes qui pourraient s'intéresser à cette valeur? Donc à 4,5 fois levé sur EBIT, c'est vraiment pas cher, donc c'est normal qu'elle remonte un peu. Mais je pense qu'il faudra plusieurs trimestres de confirmation pour vraiment revenir. Et un des problèmes d'OVH, malgré tout, je pense qu'elle est vraiment sa taille en fait. Elle est vraiment petite par rapport aux grands groupes qui sont dans le cloud. C'est quand même un secteur ultra concurrentiel. Il faudrait que l'Europe protège beaucoup plus les données. Et ça, ce serait peut-être bien pour elle. Bon, voilà. Il faut quand même voir le côté positif. On reste à neutre. On a plutôt un objectif, mais plutôt de 8 euros. Donc, ça peut encore un peu monter. Mais voilà, il manque des éléments, soit des confirmations de trimestre après trimestre, soit l'Europe qui soit beaucoup plus dure pour la sauvegarde des données en Europe. Et ça, ce serait vraiment positif pour OVH.
Une autre valeur qu'il faut suivre aujourd'hui, alors parce que ce groupe, il se porte déjà très très bien en bourse, hein, il s'agit de Saint-Gobain, mais alors il va pouvoir désormais encore plus se développer sur des marchés absolument cruciaux. On pense à l'Inde, on pense à l'Asie, on pense au Moyen-Orient. Ce groupe, donc, c'est Saint-Gobain qui rachète le britannique Fosroc, très présent dans ces régions, un rachat pour un peu plus d'$1 milliard. Est-ce que ça change la donne? C'est peut-être un bien grand mot, mais est-ce que pour vous, ça apporte du potentiel supplémentaire en bourse pour cette valeur Saint-Gobain?
Oui, je pense que Saint-Gobain, nous, on a un potentiel entre 90 et 95 euros, donc quand même un gros potentiel devant nous. Ça va toujours dans le même sens, hein, avec plus de marge dans les produits. Là, ils ont acheté Fosroc, pardon, dans la chimie de construction. Donc, ils avaient déjà acheté Chryso dans le même secteur. Donc, maintenant, ils essayent de rattraper un peu le leader mondial qui est Sika. Ils vont avoir des marges supérieures à 19%, hein, donc dans cette activité qu'ils ont achetée aujourd'hui. Donc c'est vraiment très bien. Puis en plus, ils sont sur des, comme vous l'avez dit, sur des marchés, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, où il y a une forte dynamique de croissance économique, d'urbanisation aussi, donc très présent pour ça. Donc franchement, c'est un relais de croissance important chez Saint-Gobain, hein, tout ce qui est chimie de construction, où là, on peut avoir plus de marge que dans le reste des produits Saint-Gobain. Donc ça nous confirme notre conviction d'acheter Saint-Gobain. La restructuration qui a été commencée par Benoît Bazin en 2018 va dans ce sens-là, continue, et je pense que le marché ne prend pas compte encore assez du potentiel et de l'amélioration qui se passe chez Saint-Gobain, surtout quand on la compare par rapport à ses pairs américains ou comme Sika. Donc franchement, dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur le marché, celle-ci vraiment foncer sur Saint-Gobain.
Et vous nous disiez, objectif sur Saint-Gobain, vous la voyez grimper jusqu'où, Gonaël?
90-95.
On la voit, hein, à l'écran, 73,72 €, pourquoi pas 90-95. Vous restez bien avec nous, Gonel. On a encore une question à vous poser dans un instant. C'est d'ailleurs la question d'un auditeur qu'on va vous relayer et vous devrez répondre si vous le voulez bien. Juste après un nouveau détour par Euronext, et Étienne Braque qui nous appelle. Étienne, vous nous le disiez, quand il y a des déceptions, en revanche, le marché ne fait pas de cadeaux. Et H&M aujourd'hui, d'ailleurs, le constate.
Ah oui, bah c'est pas les exemples qui manquent, hein. Airbus moins 10%, Trigano moins 6%, hier Alphen moins 50%, aujourd'hui H&M moins 10% avec un groupe qui est coté à Copenhague en Suède qui doute un petit peu sur ses objectifs annuels. Et donc suite à cela, le marché n'apprécie pas du tout, hein. Il avait dit vouloir viser une marge d'exploitation à deux chiffres pour cette année, et le patron dit tout dépendra du troisième trimestre. En tout cas, pour l'instant, la tendance n'est pas très bonne, avec comme Lévis des dépenses de consommateurs qui ralentissent, hein, forcément, avec l'inflation, des effets de base compliqués, hausse des matières premières, impact des devises, et puis surtout un environnement hyper concurrentiel avec Inditex, la maison mère de Zara. Hein, pour rappel, c'est la plus grosse capitalisation à Madrid, avec plus de 145 milliards de capitalisation boursière. Elle est encore une nouvelle fois aujourd'hui sur un plus haut historique, cette action Inditex. Et puis surtout, il faudra surveiller l'arrivée de Shein à la bourse de Londres. Hein, ça sera la plus grosse IPO de la décennie en Europe, avec une valorisation attendue au-delà des 60 milliards. Donc décidément, l'environnement est très compliqué pour ce secteur du textile, et H&M, avec la baisse du jour, revient à la case départ, moins 3% depuis le 1er janvier. À noter que c'est une capitalisation importante, l'équivalent de 28 milliards d'euros de valorisation boursière.
Gonel, ce net repli d'H&M aujourd'hui, ce net repli de Trigano en début de semaine après sa publication hier, Alphen, incroyable, Étienne nous l'a fait vivre d'ailleurs, moins 50% la baisse hier du titre Alphen. On voit qu'effectivement le marché, là, dès qu'il y a une déception, il est prompt à lourdement sanctionner. qu'est-ce que ça dit du mood global? Est-ce que le marché est trop cher? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça nous dit d'ailleurs à l'approche des publications qui vont arriver là, dans les toutes prochaines semaines? Est-ce que c'est un signe avant-coureur de ce qu'on va vivre cet été, d'après vous?
Non, je pense que ça confirme que les bons dossiers vont continuer à avoir des bons résultats et vont continuer à être tirés vers le haut. Après, les dossiers un peu plus endettés ou un peu moins avec moins de visibilité, moindre faux pas, ils sont aussitôt attaqués en fait. Donc je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Hein. Je pense que le T2 sera encore assez bon dans l'ensemble. Donc je pense que pour 80% des sociétés, ça va être sympa, ça va être positif. Pour celles qui seront un peu moins positives, le marché ne pardonnera pas, donc il sanctionnera, comme vous l'avez dit, entre 10 et 15% de baisse. Ouais.
On a cette question d'un auditeur. Comme promis, chaque jour, on répond aux questions que vous nous envoyez en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi sur vos écrans. Vous pouvez nous interroger sur notre fil XBFM Bourse également ou encore par mail. Il s'appelle Altrien. Est-il temps, nous demande Altrien, 3 jours maintenant des législatives, est-il temps de se positionner sur les bancaires d'ores et déjà qui ont fortement chuté ou est-il plus sage d'attendre le résultat de ces élections? Gwenaël.
On va peut-être quand même attendre un petit peu les résultats des élections, même si elles ont fortement baissé, surtout les valeurs françaises, que ce soit BNP, Crédit Agricole ou Société Générale. Si on doit en prendre une, faut prendre de la BNP, en fait. Je pense que c'est la plus solide, c'est la plus diversifiée au niveau européen. Elle ne fait que 25% de son chiffre d'affaires en France, beaucoup moins que ses comparables Générales ou Crédit Agricole. Donc c'est un peu sa force, la diversification au niveau de l'Europe. Alors c'est vrai qu'elle peut être un peu attaquée si le spread entre l'OAT, dont vous parlez tout à l'heure, entre l'OAT et le 10 ans allemand s'écarte. Mais bon, comme elle est très en Europe, il y a peut-être d'autres, elle pourra en profiter. Voilà. Après, ce qui pourra peser sur les banques françaises, c'est aussi le livret A à 3%. Hein. S'il n'y a pas de remise en cause, ça leur coûtera un petit peu d'argent. Et puis, elles ont moins profité que les sociétés, que les banques du Sud avec la hausse des taux. Mais si la banque centrale baisse ses taux, elles en profiteront un peu plus. Donc franchement, bien regarder, hein, si jamais ça continue de plonger un peu au lendemain du deuxième tour, franchement, à un moment, il faut savoir aller, il faudra aller sur la BNP.
On est pour l'instant entre la France et l'Allemagne à, alors non pas un peu plus de 80, contrairement à ce que je disais il y a 3-4 minutes, voilà, pas petite erreur de calcul en direct, ça peut arriver, 74 points d'écart de taux là, entre la France et l'Allemagne, c'est effectivement stable. Merci beaucoup Gwenaël. Gwenaël Lessard nous accompagne, Swiss Life Banque Privée, le CAC 40 est en baisse de 0,4%, alors lui continue de sous-performer les autres marchés européens, le CAC 40, moins 0,4 donc. Il s'installe sous les 7578 points. Et puis vous pouvez nous suivre, vous le savez donc aussi sur nos réseaux sociaux. On vous y interroge d'ailleurs. Une question par jour. La question du jour sur notre fil XBFM Bourse et notre fil LinkedIn concerne Amazon. Amazon franchit les 2000 milliards de dollars de capitalisation. Ça y est, c'est fait. Selon vous, à qui le tour? Le prochain à franchir les 2000 milliards de dollars sera-t-il, selon vous, Meta, Saudi Aramco et Lilly, le laboratoire américain, ou Tesla? Telles sont les 4 options qu'on vous propose. N'hésitez pas à continuer de répondre et surtout nous apporter vos arguments. Ça, c'est le plus important. Vos arguments en commentaire. On rebondira dessus au cœur de la famille BFM Bourse. Ce sera dans la prochaine demi-heure.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et comme chaque jeudi, c'est Gilles Mouek qui est avec nous, le chef économiste du groupe AXA, en direct depuis Londres. Bonjour Gilles. On parle beaucoup ici, bien sûr, des législatives. On va en parler dans un instant. Et on rappelle que l'écart de taux avec l'Allemagne s'amplifie à peine. On est à 74 points d'écart de taux aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. On va peut-être démarrer, puisque vous êtes avec nous depuis Londres en direct, sur le Royaume-Uni, parce que les Britanniques aussi, Gilles, vont voter. Ce sera dans pile une semaine, le 4 juillet. Quel est le principal défi pour l'économie britannique, d'après vous? Et est-ce que ce défi, les programmes des principaux partis, y répondent?
Il y a deux défis. Il y a un défi un peu structurel qui est la faiblesse des gains de productivité au Royaume-Uni depuis maintenant des années. Ce n'est pas spécifique au Royaume-Uni, mais c'est probablement un peu plus profond ici. Et ça ne s'est pas arrangé depuis le Brexit. Et puis le deuxième défi, c'est celui d'une situation des finances publiques qui est moins dégradée que celle de la France. Je pense qu'on va y revenir, mais qui n'autorise pas énormément de marge de manœuvre. Et en fait, on a deux agendas, deux plateformes électorales qui respectent bien ce deuxième défi, parce que c'est extraordinairement prudent des deux côtés, que ce soit les conservateurs ou les travaillistes. Les conservateurs ont quelques baisses d'impôts qu'ils prétendent gager contre des baisses de dépenses, à mon avis illusoires, mais on reste quand même dans l'épaisseur du trait. Et côté Labour, où on a très peur d'une accusation de légèreté en matière macroéconomique, c'est également extraordinairement prudent en matière de dépenses. Donc là, des deux côtés, on a quelque chose d'assez, d'assez tranquille, j'allais dire, d'assez modeste. Du côté de la productivité, je crois qu'il y a une vraie question de fond à laquelle personne n'a envie de répondre depuis 2016, qui est quel est le modèle de croissance britannique après le Brexit. Personne n'a envie de réouvrir cette question. Les conservateurs, pour de bonnes raisons, parce que c'est eux qui sont à l'origine du Brexit, et le Labour, parce qu'ils ne veulent pas apparaître comme ceux qui vont faire revenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne par la petite porte, et donc recréer un débat à un moment où tout le monde en est fatigué. Mais c'est quand même l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. C'est la question dont il faudrait parler. Quelle est la relation long terme avec l'Union européenne qui permettrait de rendre de l'attractivité au Royaume-Uni comme une production et de relancer la productivité? Mais personne ne veut en parler.
Oui, sujet tabou. C'est comme si l'économie britannique, en quelque sorte, roulait telle une voiture avec un pneu crevé. C'est comme ça qu'on peut décrire la situation britannique après le Brexit aujourd'hui, Gilles?
Il y a un pneu crevé, il y a trois pneus qui sont assez bien gonflés. Genre ça tient quand même. C'est médiocrement médiocre, mais sans catastrophe. Et quelque part, c'est peut-être un peu le problème. C'est-à-dire que lorsque le Brexit avait eu lieu, ceux qui étaient opposés avaient prédit une catastrophe intersidérale. J'avoue que j'en étais. La catastrophe ne s'est pas produite, c'est plutôt une faiblesse de la croissance un peu lancinante, mais qui n'est pas très spectaculaire. Et du coup, ça nuit en fait à ce qui, à mon avis, devrait être le vrai débat. Quelle est la relation que le Royaume-Uni veut rebâtir avec l'Union européenne? Mais les choses ne vont pas suffisamment mal pour qu'on se la pose.
Oui, alors que la France est tentée quand même aujourd'hui par le populisme, les Britanniques sont-ils malgré tout en train d'en revenir du populisme? Dans une semaine, ils vont donc voter, les travaillistes sont favoris face aux conservateurs. Quand vous regardez les deux programmes, est-ce que le sérieux des mesures proposées augmente par rapport à ces dernières années, malgré tout, Gilles?
Ah oui, tout à fait. Alors, les deux parties sont vraiment dans ces deux nuances de ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelait dans les années 90 le consensus de Washington. C'est absolument pas révolutionnaire. C'est encore une fois très modeste en termes de finances publiques. Il n'y a pas de remise en cause des structures économiques britanniques. Je crois que voilà, les Britanniques ont fait un bain de populisme depuis 2016. Je crois que la boucle est bouclée, ils en sortent. Un élément important, et je pense que ça c'est une vraie différence entre la France et le Royaume-Uni, c'est que le Royaume-Uni a vécu sa phase populiste sans modifier son système partisan. C'est-à-dire que le populisme a gagné à la fois les conservateurs et les travaillistes à des moments différents, mais la structure politique n'a pas changé. Les partis sont toujours les mêmes, les institutions, à partir du moment où cette phase populiste se fermait, eh bien on recommence, on retrouve le système tel qu'il n'avait finalement pas changé, alors qu'en France, le système politique a explosé depuis 2017.
Effectivement, et alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Hein. On est allé vers le populisme depuis quelques années, davantage en tout cas aux États-Unis, et les deux partis principaux restent les mêmes. Il se trouve que ce soir aura lieu le premier grand débat télévisé de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden. Dans le programme économique, Gilles, de Donald Trump, est-ce que vous voyez autant d'idées disruptives qu'il y a 8 ans quand il avait été élu?
Oui, voire même plus, parce que 2016 c'était quand même extraordinairement vague sur le programme économique de Donald Trump. On savait qu'il voulait faire des baisses d'impôts par exemple, mais il n'était pas nécessairement très précis sur son programme en matière de relations commerciales internationales par exemple, alors que là on a des choses très quantifiées, cette idée d'un tarif généralisé à 10% sur la totalité des importations, j'imagine en dehors de ce qui vient du Canada et du Mexique, 60% pour la Chine. C'est très précis et c'est massif. Le taux moyen du tarif sur les importations aux États-Unis aujourd'hui, c'est à peu près 3%. Donc on parle d'un triplement. Donc là, en termes de révolution, entre guillemets, sur les relations commerciales internationales, c'est pire qu'en 2016. Et puis un deuxième élément, c'est qu'il faut aussi juger, et là vous allez me voir venir avec mes gros sabots sur la France, mais il faut juger l'ambition des programmes à l'aune de la marge de manœuvre. Or, la marge de manœuvre américaine en 2024, elle est infiniment plus faible qu'en 2016, parce que la dette publique a beaucoup augmenté, et parce que l'intérêt du marché pour la question de la soutenabilité de la dette publique est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, dans le contexte, si même j'oublie cette question des relations commerciales internationales, parler aujourd'hui de prolongation, par exemple, des baisses d'impôts de 2016-2017, c'est prendre un assez grand risque, compte tenu encore des contraintes qui pèsent sur la stabilité de la dette aux États-Unis.
Mais est-ce qu'on peut du coup imaginer, par exemple, que juste compte tenu de ces contraintes budgétaires dont vous nous parlez, que si Donald Trump était élu, on verra, bien qu'il
d'une certaine façon remettre en cause l'indépendance de la Fed et lui tordre le bras pour qu'elle adopte une politique plus accommodante, histoire de rendre cette dette peut-être plus soutenable. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer ce genre de scénario? On est dans la politique fiction, on est d'accord, mais voilà. Est-ce que ce serait une clé, en tout cas?
On n'est pas dans un risque central, mais c'est un risque qu'il faut envisager. On sait que Donald Trump avait déjà été tenté en 2018 retirer en fait la présidence du board de la Fed à Jay Powell. Ça peut revenir. Moi, j'avais été frappé de lire sur le site web d'un des plus grands think tanks républicains cette proposition de réforme du statut de la Fed. Donc c'est compliqué parce qu'on sait très bien que les processus législatifs aux États-Unis sont extraordinairement complexes et que Trump pourrait décider que ça n'en vaut pas la chandelle, ça ne vaut pas l'énergie qu'il faudrait y mettre. Mais il y a des secteurs du Parti républicain qui sont favorables à une révision du statut de la Fed, oui.
Alors, même question pour le Royaume-Uni. Quand vous regardez les deux programmes, bon, qui sont pas encore complètement connus et détaillés, hein, ceux de Joe Biden et celui de Donald Trump, est-ce que les mesures proposées vous semblent, comme au Royaume-Uni, gagner en sérieux par rapport à ces dernières années? Vous disiez oui pour le Royaume-Uni. Est-ce que pour les États-Unis, c'est plutôt non?
Pour moi, c'est plutôt non. Enfin, on est vraiment aux limites de ce qui est possible de faire en termes de finances publiques, et on est dans la surenchère. C'est-à-dire que aucun des deux ne veut donner l'impression qu'à partir de 2025, on rentrera dans une phase d'austérité budgétaire, qui, à son sens, est inévitable, mais pour l'instant, personne ne veut en parler.
Et vous nous disiez, on arrive nous tous les deux, hein, avec nos gros sabots sur le cas français, c'est une grosse année d'élection. Un sondage pour la première fois depuis hier, hein, ce sondage a été publié hier soir, pour la première fois, n'exclut pas une majorité absolue pour le Rassemblement National à l'Assemblée à l'issue des législatives. Le Rassemblement National qui a beaucoup revu son programme économique en à peine 10 jours. Est-ce que pour vous c'est un signe de sérieux parce que son nouveau programme économique là d'un coup est plus réaliste, ou vous dites, et les marchés pourraient se dire, qu'avoir autant et aussi vite remanié le programme en aussi peu de jours posera un problème de crédibilité une fois au pouvoir?
Moi, je le lis encore une fois par rapport à la marge de manœuvre dont on dispose. Si on regarde les mesures qui restent, qui sont explicites, hein, dans le programme dont vous me parlez. On a par exemple cette idée de la baisse de la TVA sur l'énergie, on a la demi-part supplémentaire à partir du deuxième enfant, on a les impôts à la production sur les entreprises. Tout ça à la louche, allez, ça fait à peu près un point de PIB. Ce point de PIB-là, on n'a pas. C'est même dans l'autre sens. Le programme de stabilité qui a été transmis à la Commission européenne au mois d'avril, il fait reposer le plus fort ajustement budgétaire du programme sur l'année 2025. En 2025, on était censé réduire le déficit structurel de 1 point de PIB. Donc c'est vous dire en fait la distance, hein, entre ce qui est aujourd'hui sur la table, des deux côtés d'ailleurs, et la véritable marge de manœuvre budgétaire. Je trouve par exemple qu'on a assez peu parlé de la justification qu'avait donné la Commission européenne au placement de la France en procédure de déficit excessif. Le calcul de la Commission européenne, c'est que sans changement de niveau du déficit structurel, sans action supplémentaire, la marge normale de la dette publique française, c'est 140% du PIB en 2033. 140%. Ça, c'est la trajectoire si rien n'est fait. Donc c'est pour ça, c'est ma grille de lecture, si vous voulez. C'est que dans des circonstances où les dettes publiques seraient à 60% des PIB, on partirait d'un déficit de 2 à 3%, on pourrait certes envisager bien des choses. Mais là, la marge de manœuvre est vraiment inexistante.
Et forcément, ça traduirait, enfin forcément, personne ne sait avant, mais un incendie sur les marchés, vous l'imaginez, en cas effectivement, on prend, c'est vraiment de la politique fiction, mais il se trouve que depuis hier, il y a un sondage, voilà, qui donne la possibilité d'une majorité absolue pour le Rassemblement National. Si tel était le cas, et que son programme tel qu'il a été remanié, qu'il est désormais présenté, était mis en œuvre, vous estimez que le marché n'apprécierait pas ce programme, effectivement, et qu'on aurait un possible incendie obligataire sur la France?
Ouais, je ne sais pas, je fais attention au choix des mots en ce moment, mais une chose importante pour moi, c'est je ne suis pas sûr que le marché saura nécessairement très vite sur quel pied danser. Pour moi, le vrai moment de vérité, ce sera la présentation de la loi de finances. Et bon, il est possible qu'il y ait une loi de finances rectificative dès l'été, mais sinon, ça nécessite à mon avis une majorité absolue. Sinon, il faudra attendre la marche normale, qui est un dépôt de la loi de finances au premier mardi du mois d'octobre. Et c'est là, à mon avis, où le marché pourra vraiment se faire une idée d'orientation générale. Parce que ce qui compte, c'est bien sûr l'agenda, enfin la plateforme, le programme, puisque j'appellerai le taux de conversion du programme en loi de finances. On verra où on en est. Donc moi, je pense que le marché pourrait en fait temporiser et chercher à comprendre dans quelle direction tout cela va, même une fois qu'on aura le résultat des élections. Mais encore une fois, c'est très très difficile à mesurer.
Bien sûr, on est actuellement à 74 points d'écart entre la France et l'Allemagne, le 10 ans français et le 10 ans allemand. 74, ça se tend un tout petit peu, mais vraiment à peine, c'est très très symbolique. Est-ce que pour le marché, une absence de majorité absolue pour quelque parti que ce soit pourrait être accueillie comme une forme de soulagement ou même pas?
Mon avis, tout dépend de la forme que prendrait le gouvernement dans ces cas-là, parce que ce qui se promène beaucoup dans la presse française, c'est par exemple l'hypothèse de ce qu'en Italie on appelle un gouvernement technique, c'est-à-dire qu'on ferait appel à un technocrate. Si ce technocrate parvient à casser, entre guillemets, les différentes frontières des partis et à pouvoir avancer sur une loi de finances correcte au mois d'octobre sans prendre le risque d'une motion de censure qui le bloquerait immédiatement, oui, le marché peut tout à fait le vivre positivement. Mais pour moi, encore une fois, je ne suis pas sûr que le 8 juillet au matin, on saura exactement sur qui les pédancer, parce que on peut avoir une situation dans laquelle aucun des grands blocs n'a de majorité absolue, mais où on va vers une solution technique correcte, avec une majorité, un peu de briquet de broc, mais une majorité qui se forme, ou alors on est dans l'absence complète de direction. Et ça, pour le marché, c'est complètement différent.
Le pire n'est jamais certain. Ça, il faut toujours l'avoir en tête, effectivement, et encore plus sur les marchés. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir accompagnés. Gilles Mouek, qui va aussi vivre les élections britanniques depuis Londres. C'est là que vous officiez, Gilles, chef économiste du groupe AXA. Et puis ce soir, il faudra suivre aussi, donc ce sera la nuit prochaine, même à 2h30 du matin, le débat entre Donald Trump et Joe Biden, qui sera diffusé d'ailleurs et traduit en français simultané sur BFM TV. Vous pourrez le suivre donc au cœur de la nuit, ce débat entre les deux prétendants à la Maison Blanche. Dans un instant, c'est la famille qui va se réunir, la famille BFM Bourse. Et puis à 3 jours de ces législatives, Emmanuel Le Chypre viendra mettre les pieds dans le plat dans la prochaine demi-heure. Il a regardé, Emmanuel, les 3 principaux programmes et il va nous dire si un pays peut à la fois être social et bien géré. Être social et bien gérer les finances publiques est-il possible? Les réponses d'Emmanuel, ce sera dans le bouchitomètre à suivre après la pause. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommeret.
Et la famille qui se réunit chaque jour jusqu'à 17h, Jean-Louis Delouroux, bfmbourse.com, notre site web, toutes les actus boursières en temps réel. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver Jean-Louis. C'est quand même aujourd'hui la 3e baisse d'affilée sur le CAC 40 qui perd encore 0,5% cet après-midi.
C'est ce que j'allais vous dire. 3e séance d'affilée dans le rouge, 4e sur les 5 dernières séances. Tout le monde est un peu attentiste, on attend de voir ce qui va se passer lors du premier tour des élections législatives en France ce week-end. Et puis, il n'y a pas de grande tendance macroéconomique à se mettre sous la dent. Ça, il faudra attendre plutôt demain les chiffres de l'inflation américaine. Et donc, en attendant, ça baisse. Surtout que les valeurs automobiles sont un petit peu mises sous pression par une note de la banque HSBC qui estime que les volumes de vente et le faible déstockage aux États-Unis vont dans le sens d'un premier semestre 2024 qui va être inférieur aux attentes des analystes. Mmh. C'est ce qui fait tanguer Stellantis aujourd'hui. Et puis, dans une moindre mesure, Renault qui est un petit peu moins exposé aux États-Unis. Alors, inversement, on peut noter quand même une bonne surprise du côté de Kering, avec les analystes de Bank of America, qui estiment qu'il y a de premiers signes de redressement pour la marque Gucci. Oui. Et ils conseillent même la valeur à l'achat.
Et d'ailleurs, Kering en profite. Plus forte hausse du marché aujourd'hui, 5% de hausse quasiment, le titre Kering, sur le relèvement d'opinion à neutre, c'est pas non plus génial, enfin à neutre pour Bank of America, voilà. Le marché, ça lui donne des ailes. Ce titre Kering, aujourd'hui, récupère du terrain, l'un des titres les moins chers en plus de secteur du luxe. Jean-Louis, que ferez-vous ce soir à 22h?
Bonne question. Bonne question, je ne sais pas.
Il y aura une fête pas très très loin, vous n'irez pas.
Il y a un match de foot, je pense.
Nike publie ses résultats, enfin. Après la clôture de Wall Street, quand même. C'est une publication qu'il ne faudra pas rater. Nike, ce soir, 22h, publiera ses résultats. Vous ferez quoi à 2h30 du matin?
Je pense que je vais dormir, quand même.
Oh, vous allez rater le débat entre Joe Biden et Donald Trump, vraiment?
Je verrai le résumé demain.
Le premier grand débat télévisé de la campagne présidentielle américaine, quand même. La nuit prochaine, sur CNN et sur BFM TV en simultané avec traduction en français, Jean-Louis. Donc vous pourrez le suivre. Ça vaudra le coup de vous réveiller. Effectivement, ce débat, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec John Plassard. Qu'attendent de ce débat les forces en présence? C'était dans USA Today à 15h30. Et ça y est, le replay est en ligne. Si vous souhaitez réécouter, vous préparer pour ce débat à suivre la nuit prochaine, n'hésitez pas. Donc le replay sur notre application BFM Business. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour Guillaume.
On rigole, c'est la famille BFM Bourse. On se détend toujours. Mais enfin, on est quand même sur le CAC 40, loin d'être détendu. On a une troisième baisse d'affilée aujourd'hui sur le CAC. Elle n'est pas méchante, cette baisse, mais une nouvelle fois, le CAC 40 sous-performe les autres marchés européens, Romain.
Oui, effectivement, le contexte est bien tendu. On se prépare vraiment au pire sur l'indice parisien. C'est assez intéressant de le mesurer, puisque notre indice de volatilité à Paris est situé aux alentours de 24. Pour vous donner un exemple de la mesure, habituellement, un indice de volatilité, il évolue entre 10 et 30. 30, c'est un peu tendu. Au-delà, on est vraiment très tendu. Donc, on est plutôt dans le haut de la fourchette, très nettement. Dans le même temps, eh bien, la volatilité sur l'indice S&P 500, l'indice large américain, est à 12,5. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Les choses communes qu'on peut trouver aux deux indices, c'est l'absence d'intérêt du côté des marchés dérivés. Personne ne prend d'initiative alors qu'on entame cette nouvelle échéance, ce nouveau trimestre depuis le début de la semaine, et qu'on a eu enregistré un tout petit peu de pression baissière sur les indices européens. Mais est-ce que ça n'est pas un peu de prudence justement dans ce contexte-là et un peu de couverture plus que des stratégies baissières à proprement parler sur les indices européens? En tout cas, c'est plus dans ce sens-là que ça se joue pour l'instant. Sur les indices américains, c'est autre chose. On ne prend pas d'initiative, on était vraiment en attente, et ça laisse à présager de toute façon de la volatilité à venir. Quand les marchés sont creux comme ça, eh bien, avec un calendrier qui va se densifier très nettement dans les jours qui viennent. Vous en parliez, hein, les chiffres de l'inflation demain, et puis un programme bien chargé la semaine prochaine avec des indices des directeurs d'achat, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, et puis des discours de banquiers centraux. Tout ça avec une semaine qui, au milieu, sera fériée en partie pour les marchés américains avec la journée de l'indépendance. On va avoir pas mal de volatilité à venir, à mon avis, dans les jours qui viennent, et de quoi reconstruire pour l'instant. Donc, une grande prudence sur l'indice parisien qui reste dans son range, 7507, 7791. Qui n'en sort pas et ne touche pas les bornes d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, c'est dire que les initiatives sont faibles.
Mais vous dites que le marché se prépare au pire, oui peut-être, mais il va falloir nous l'expliquer davantage ça, Romain. On est à 3 jours de ces législatives, bon, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne s'amplifie à peine, on est à 74 points d'écart de taux, il n'y a pas d'incendie sur l'écart de taux. Qu'est-ce qui vous amène à penser que le marché stresse malgré tout de plus en plus?
Bien, on a eu par exemple entre hier et aujourd'hui 18% d'options ouvertes en plus, quasi 20% du nombre de contrats d'options ouvertes en plus, et c'est quasiment en totalité sur des options de vente. Alors les options de vente, c'est en moyenne plutôt un signe de prudence de la part des opérateurs, et on a donc une volatilité qui se tend et qui monte à 24, c'est quand même bien au-dessus de la moyenne des dernières semaines ou des derniers mois. C'est l'indice VCAC, l'indice de volatilité à Paris, qui est beaucoup plus tendu, du double que celui de la volatilité sur l'indice américain, qui est plutôt aux alentours de 12. Donc ça veut dire qu'on est en train d'anticiper le pire. Alors, c'est une bonne nouvelle entre guillemets, puisque en général, quand on anticipe le pire, quand tous les opérateurs sont d'accord et sont prudents, le pire est évité. Ça, c'est ce qui peut se passer généralement. Reste que dans le contexte là, il y a des raisons de se poser des questions, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas mesurables, et le côté électoral, en tout cas pour le second tour, sera très, très, très difficile à anticiper, même si, à notre sens, le premier tour a déjà été en grande partie pricé. Les résultats du second tour vont être beaucoup plus difficiles à anticiper. Donc, on a un scénario dans lequel on est un peu quitte ou triple. C'est-à-dire qu'on peut aller baisser assez nettement si on rompt des niveaux aux alentours de 7200 points et accélérer aux alentours de 6500. En revanche, on peut avoir cette petite accélération baissière et n'aller chercher que 7200 pour recréer de l'intérêt. Mmh. Si en revanche, on a un ouf de soulagement pour une raison ou une autre, dans ce contexte où on est très tendu, eh bien, on pourrait rebondir et neutraliser la tendance. Mais compte tenu de ce contexte lourd, ça pourrait durer assez longtemps, cette absence de tendance. Donc, on a plus un contexte de risque fort avec un intérêt et un possible soulagement modéré. Et donc, dans ce contexte-là, les opérateurs sont tous très, très prudents, très en retrait et très couverts.
Asymétrie sur les réactions à attendre à l'issue du résultat des législatives. À 3 jours des législatives et du premier tour, Emmanuel Le Chip, d'ailleurs, viendra mettre les pieds dans le plat dans quelques minutes. Il a regardé les principaux programmes et il va nous dire si un pays peut à la fois être plus social et mieux gérer, être davantage social et mieux gérer les finances publiques. Est-il possible. La réponse d'Emmanuel, ce sera dans le bullshitomètre dans quelques instants. D'abord quand même, et Romain, juste pour apporter un peu d'air frais à nos auditeurs et téléspectateurs, malgré tout, dans cette ambiance un petit peu suffocante autour du marché parisien, il y a une valeur qui se distingue. Jean-Louis nous en parlait il y a un instant. Kering en tête du CAC, c'est pas tous les jours, plus 4,5% après un relèvement d'opinion. Est-ce que cette hausse du jour vous semble ressembler, techniquement parlant, Romain, à un feu de paille, ou c'est le début peut-être d'une tendance et d'un rattrapage du retard pour Kering?
Alors, il y a quelque chose, encore une fois, sur Kering, on avait déjà assisté à des rebonds assez importants, mais ça reste des petites figures de retournement haussier. Donc la première cible légitime, elle est située aux alentours de 366-377. Ce sont les premiers niveaux qu'on peut aller chercher dans ce mouvement de rebond, mais Kering a bien débordé une oblique baissière sous laquelle elle évolue depuis plusieurs semaines maintenant. Donc on n'a pas un signal très fort, très marqué, mais on ouvre avec un gap haussier dans un marché qui baisse et avec des volumes qui sont un petit peu supérieur à la moyenne. On n'a pas un mouvement très fort qui se met en place, mais dans un contexte d'attentisme, c'est un signal qui est plutôt pas mal. Donc, quelque chose de spéculatif, mais peut-être à un niveau d'accumulation pour le moyen long terme sur un titre qui est très, très en retard, encore une fois, et qui préserve son niveau de 306,47. Sous ce niveau en clôture, on invaliderait vraiment le mouvement. Mmh.
Merci Romain. Romain Daubry, on vous appellera à nouveau la clôture des marchés. Merci tout à l'heure à 17h35 depuis Bourse Direct. Jean-Louis Delouro nous accompagne. C'est la famille qui est réunie jusqu'à 17h. Vous faites, vous tous qui nous suivez, partie de cette famille sur les réseaux sociaux, notamment le fil XBFM Bourse et le fil LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner pour devenir membre de la famille. Et chaque jour, on vous interroge. La question du jour concerne les 2000 milliards de dollars de capitalisation franchis par Amazon. Ça y est, Amazon, en effet, entre dans le club des capitalisations supérieures à 2000 milliards de dollars aux États-Unis. Et selon vous, à qui le tour? Le prochain à franchir cette barre des 2000 milliards sera-t-il, selon vous, Meta, Saudi Aramco, Eli Lilly, le laboratoire, les médicaments anti-obésité, ou encore, pourquoi pas, Tesla? Telles sont les quatre options qu'on vous propose. Jean-Louis, pour vous, qui sera le prochain à franchir la barre des 2000 milliards de capi?
Alors moi, je répondrai Saudi Aramco, mais je vais un petit peu développer. Si je prends les uns après les autres, Meta, on est quand même loin du compte, hein, on est autour de 1300 milliards de dollars et l'action semble un petit peu avoir atteint son pic. Hein, elle ne réussit pas à passer son dernier sommet historique, qui datait d'avril dernier. Donc pour moi, c'est pas forcément le premier des candidats. Alors il y a Eli Lilly, ça c'est un pari intéressant, mais c'est un pari sur les traitements anti-obésité avec un marché qui est immense, mais qu'on a du mal à appréhender. Après Eli Lilly, c'est que 800 milliards de dollars.
Ils sont qu'à 800 milliards de capi.
Ils sont qu'à 800 milliards de dollars. Après, oui, on n'est pas à l'abri que ça flambe du type Nvidia, parce que les traitements anti-obésité, ça peut avoir presque autant d'impact que l'IA. Tesla, j'ai un peu du mal à y croire parce que l'action elle patine quand même depuis juillet dernier. Et puis la valorisation du groupe, si on compare à d'autres constructeurs automobiles, elle reste toujours très très forte.
Donc vous nous le disiez, vous procédez par élimination, vous avez éliminé Meta, vous êtes un tueur en série là, éliminé Tesla, éliminé Eli Lilly, qui pour vous ne seront pas les prochains à franchir la barre des 2000 milliards de dollars de capi. Il en reste un, c'est
Saudi Aramco, bien sûr, qui a déjà valu plus de 2000 milliards de dollars, plusieurs fois d'ailleurs. Et la dernière, c'était à l'été 2022. Alors par contre, pour Saudi Aramco, il faut qu'il y ait un baril qui soit grosso modo au-delà des 105-110 dollars, parce que Saudi Aramco, c'est clairement un pari sur le baril de pétrole. Mais c'est quand même loin d'être impossible en cas de reprise mondiale. Hein.
Effectivement, et vous êtes en accord complet, total, en harmonie avec nos auditeurs et téléspectateurs, Jean-Louis. Je vous laisse découvrir la réponse de nos auditeurs et téléspectateurs dans le grand, l'immense mur d'images de BFM Business. Il faut nous suivre aussi à la télévision. Si vous êtes à la radio ici en direct, il faut nous suivre à la télé parce que c'est beau. Et on voit donc la réponse de nos auditeurs et téléspectateurs. À 39%, ils ont voté comme vous, Saudi Aramco. 39%
d'entre eux. Ils ont raison.
Et la bonne nouvelle, vous avez raison, effectivement. Juste derrière, pour qui nos auditeurs ont-ils voté? Pour Meta, enfin assez loin derrière en fait, à 23%. Donc à leurs yeux, seulement 23% de chance, en tout cas 23% d'entre eux estiment que Meta sera le prochain à franchir la barre des 2000 milliards de capi. Puis en que de peloton, Tesla ou encore Eli Lilly. Surtout, laissez-nous des arguments en commentaire. Vos arguments comptent aussi. On essaie de rebondir dessus jour après jour dans la famille BFM Bourse. D'ailleurs, la question qu'on vous pose sur les réseaux reste ouverte. Vous pouvez continuer de participer, faire évoluer cette tendance. La victoire de Saudi Aramco n'est pas encore définitive. Vous pouvez faire pencher la balance et surtout apportez-nous d'autres arguments. On aura d'autres occasions de rebondir dessus, notamment dans le club. Tout à l'heure, à partir de 17h, on posera cette même question à nos experts. Il y a une valeur aujourd'hui qui, alors, ne franchira peut-être pas demain la barre des 2000 milliards de capi. Faut pas rêver. C'est une valeur française, mais enfin, quand même, sur un secteur très porteur, lui. Le secteur du cloud. Il s'agit d'OVH Cloud, qui a présenté ses perspectives, ses résultats. Et cette fois-ci, Jean-Louis, les marchés apprécient. Le titre OVH gagne à l'instant 15%. C'est mérité?
Oui, bah j'ai envie de vous dire, enfin une bonne nouvelle du côté d'OVH. Hein, c'est quand même, les investisseurs en avaient peu à se mettre sous la dent depuis son arrivée en bourse fin 2021. Le spécialiste du cloud a enregistré de meilleurs revenus que prévu pour son premier trimestre qui se clôt fin mai, parce que c'est un exercice décalé. Donc la croissance est de plus de 10% sur un an, ce qui est quand même assez costaud. On peut notamment signaler plusieurs éléments. Il y a une accélération de la croissance aux États-Unis hein, qui est tirée par les entreprises de la tech. Et on le sait, elles ont un besoin énorme en data center. On note aussi que ce qu'on appelle le cloud public, hein, à pas confondre avec le cloud souverain, le cloud public, autrement dit, c'est quand les infrastructures et les serveurs sont partagés entre plusieurs clients, et ben ça progresse plus vite que le cloud privé. Or, c'est plutôt le cloud public qui a la cote en ce moment, on va dire, auprès des clients. Dans le cloud privé, hein, c'est une seule entité qui gère l'infrastructure et dispatche les ressources informatiques en fonction des besoins, mais ça se fait quand même de moins en moins. En tout cas, c'est moins la tendance actuellement. Alors, quoi qu'il en soit, OVH confirme ses objectifs 2024. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui rassure les marchés. Il y avait quand même pas mal d'inquiétudes sur OVH quand on enchaînait les déboires. Et puis, il y avait eu les récentes ventes d'actions des fondateurs, la famille Klaba d'OVH, qui pouvaient laisser penser qu'ils n'étaient plus totalement concentrés sur l'entreprise et en tout cas sur la création de valeur pour les actionnaires. Et donc là, voilà, c'est quand même plusieurs éléments qui sont rassurants pour notre tech, notre valeur tech à nous.
Effectivement, c'est encourageant. Ce titre OVH Cloud gagne 15%. Sébastien Barthélémy rejoint la famille BFM Bourse. Bonjour Sébastien. Depuis Bonjour. Les bureaux de Kepler Chevreux, vous venez nous apporter un chiffre fort, un chiffre qui à lui seul en dit beaucoup sur l'état des marchés, l'état d'esprit des marchés. Avant les législatives françaises, on est à 3 jours du premier tour et votre chiffre, 18 milliards d'euros. De quoi s'agit-il Sébastien?
Eh bien, il s'agit des émissions depuis le début de la semaine. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le marché primaire européen obligataire a été étonnamment résistant, malgré ses incertitudes politiques, en France, et malgré la volatilité qu'on avait connue la semaine dernière. Donc voilà, un volume d'émissions cumulé à ce matin depuis le début de la semaine d'environ 18 milliards d'euros. Depuis, il y a eu quelques émissions. Moi, j'ai envie de souligner des émissions high yield, hein, comme Picard, qui a émis hier ou avant-hier un peu plus d'un milliard d'euros, mais également des émissions subordonnées, juniors subordonnées, notamment Commerzbank, qui est venu émettre une coco, une ATR, vous savez, c'est les obligations coco les plus risquées. Eh bien, on voit que l'appétit des investisseurs ne s'est pas démenti, et on a encore de nouvelles émissions à attendre pour demain. On sait que CMA, CGM, justement, devraient venir sur le marché primaire demain, probablement.
Qu'est-ce que tout cela nous dit, Sébastien, de l'état d'esprit des investisseurs à l'approche de ces élections françaises?
Eh bien, on voit déjà que l'appétit, comme je le disais, reste solide. Après 3 semaines, après l'annonce de la dissolution, je trouve que le marché du crédit semble stabilisé. Bon, vous avez déjà probablement commenté largement la baisse du Bund avec un 10 ans actuellement autour des 2,48, 2,50 contre 2,67 le 10 juin. Et si on se focalise vraiment sur les spreads de crédit, donc on a vu un écartement de l'ensemble des indices crédit dans les premiers jours de l'annonce de la dissolution. Et puis depuis, ça s'est stabilisé. Donc il y a une position d'attente. Pour vous donner un exemple, l'indice Itrax Crossover, qui est un indicateur avancé pour les corporate high yield, eh bien, il se situe autour de 325 points de base. On était à 290 avant l'annonce, on a eu un pic à 335, vous voyez, 325, c'est stabilisé. Et puis pour vous rappeler, pour vous donner aussi une dimension, au début janvier on était à 340 et fin octobre on était à 470, voilà, 325, on peut voir qu'il y a un impact, oui, mais qui est limité. Et puis aussi, je trouve que c'est intéressant de regarder sur la partie bancaire, parce que les banques françaises ont été particulièrement touchées sur la partie obligataire, notamment sur les souches très subordonnées, en comparaison avec leurs pairs européens. Mais sinon, hormis les banques françaises, c'est très mesuré comme impact.
Bon, et sinon, pour lundi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre après le premier tour?
Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je fais pas de politique. Néanmoins, j'ai le sentiment qu'on pourrait s'attendre non pas à un resserrement, sauf si le parti présidentiel ou la droite traditionnelle venait à ressortir gagnante. Donc je serais plutôt sur un potentiel écartement, tant sur les spreads que sur le taux français. Mais l'ampleur va dépendre évidemment de quel parti sortira présumant vainqueur des élections. Maintenant, post-second tour, selon l'écartement des spreads, je pense que ça pourrait être une opportunité d'achat sur des obligations, notamment sur des émetteurs qui ne sont pas exposés à la France. Alors, on peut parler, par exemple, de banques régionales espagnoles ou italiennes. Ça pourrait être une option et un intérêt à l'achat, ou des entreprises au profit de ventes mondialisées, vous savez, des types utilities, type Enel ou EDP, par exemple.
Merci beaucoup, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Sébastien Barthélémy depuis Kepler Chevreux. Donc sur l'obligataire, pas d'énorme stress. Hein. Les émissions restent très très nombreuses en Europe à l'approche de ces législatives et même en France, du côté du corporate notamment. Merci Sébastien de nous avoir apporté ce chiffre intéressant des émissions importantes depuis le début de la semaine. Tout à l'heure, Olivier Droyard nous accompagnait pour Montpensier. Lui disait, c'est vrai qu'il y a du stress sur le marché à l'approche des législatives, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qui se sont reconstituées à la Bourse de Paris. Il nous a livré un certain nombre d'idées de valeur qui, à ses yeux, pourraient avoir un beau potentiel de rebond. Il nous les a livrées, c'était dans la Bourse Cash. Il a parlé vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, Olivier, c'était à 15h40. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Vous savez où ? Sur notre application BFM Business, ça y est, il est consultable. N'hésitez pas à faire savoir aussi à vos amis et vos collègues qu'il reste des opportunités sur ce marché français malgré le petit stress qu'on constate à nouveau à 3 jours de ces législatives. Aujourd'hui, l'écart de taux avec l'Allemagne augmente un tout petit peu. On est à 74 points d'écart de taux en ce moment. On va continuer de parler de tout ça avec notre expert du bullshitomètre. Chaque jour, effectivement, un expert de l'économie vient déconstruire des idées reçues. Et consensus, un peu trop facile à ses yeux. Aujourd'hui, c'est notre expert maison, Emmanuel Le Chip, qui nous accompagne. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
C'est vrai que les programmes des différents partis mettent en avant le social. Mener une politique sociale, mais efficace, malgré tout, économiquement, est impossible. Ça, on l'entend souvent. Ben, vous dites « Bullshit !» Vous foudroyez. Cette idée qu'on ne pourrait pas faire de social sans aggraver les déficits. Les programmes de l'opposition à Emmanuel Macron, Rassemblement National, Nouveau Front Populaire, promettent tous davantage de dépenses sociales et des baisses d'impôts pour ce qui concerne le Rassemblement National notamment. Est-ce qu'il est possible à la fois de satisfaire les Français avec ce genre de politique sans plomber les finances publiques, Emmanuel ?
Alors, si on regarde le track record de l'économie française depuis 40 ans, on a quand même plutôt envie de répondre non. Non, pourquoi ? Parce que sur le papier, la France est un des pays aujourd'hui les plus égalitaires et les plus redistributifs du monde. Je vous rappelle qu'avant impôts et prestations sociales, l'écart entre les 10% de Français les mieux payés et les 10% de Français les moins bien payés va de 1 à 18. Ce rapport est ramené de 1 à 7 quand on prend en compte la redistribution financière et de 1 à 3 quand on prend en compte l'accès aux services publics, éducation, santé, logement, etc. Donc, on a un des pays les plus égalitaires, sauf que dans le même temps, quel est le pays dont le niveau de vie s'est le plus dégradé par rapport aux autres grands pays au cours des 30 dernières années ? C'est la France. On a quand même perdu quasiment 0,5 points par an de PIB par habitant par rapport aux autres pays de l'OCDE. Hein, c'est quand même beaucoup. Qui est le pays parmi ceux qui tient le moins bien ses finances publiques ? C'est la France. Et qui est le pays qui a le plus perdu en compétitivité aussi ? C'est la France. Donc, cette idée, effectivement, aujourd'hui, de dire un modèle social généreux et la compétitivité, la France nous montre que c'est compliqué.
Mais il y a bien des pays qui arrivent à combiner les deux.
Oui, aujourd'hui, c'est possible. Alors, c'est surtout, effectivement, des pays qui ont des caractéristiques assez particulières, qui sont les pays d'Europe du Nord pour la plupart. Alors, c'est quoi ces caractéristiques particulières ? C'est, une culture social-démocrate qui se traduit, c'est vrai, par une acceptation profonde des mécanismes de solidarité. Acceptation d'autant plus facile que les services publics sont performants. Il y a dans ces pays une acceptation de l'impôt, là aussi plus facile quand l'État fonctionne bien. Il y a incontestablement la culture protestante qui impose une morale assez stricte à la fois de chacun envers soi-même pour respecter les règles de la collectivité et aussi sur les autres pour qu'ils respectent les règles de la collectivité, parce que si vous ne respectez pas les règles communes, eh bien vous avez autour de vous une pression sociale qui fait que vous devez respecter ces règles. Et puis dernier critère, c'est que ce sont des petits pays et que la réalité, c'est qu'il y a des politiques économiques qui sont applicables dans des petits pays qui ne le sont pas forcément dans les grands. Et ça, c'est effectivement la raison, c'est que c'est les problématiques sont exponentielles dans pays, et donc plus vous avez un grand pays, plus c'est compliqué à gérer.
Comment vous pouvez dire ça ? Il y a beaucoup de pays qui ont réussi à concilier politique sociale et politique compétitivité efficace sans être ni petit, comme vous dites, ni scandinave.
Exactement, vous avez raison. Alors reprenons par exemple le cas des États-Unis, qui n'est pas un pays scandinave et qui n'est pas un petit pays. Si vous regardez dans les années 60, on a les 0,01% des Américains les plus riches qui payent deux fois plus d'impôts qu'aujourd'hui, quasiment, 70% de taux d'imposition. Un syndicalisme puissant, une croissance spectaculaire et des fruits de la croissance équitablement partagés. Et ça a été vrai aussi en France pendant les 30 Glorieuses, avec la montée parallèle à la fois de l'État-providence et d'un enrichissement sans précédent.
On est au cœur de la famille BFM Bourse. Vous le savez, Emmanuel, ici, c'est la famille BFM Bourse. Et en famille, on ne se fait pas de cadeaux. Jean-Louis vous interroge.
Bah oui, parce qu'on peut s'interroger quand même. Pourquoi ce qui était possible à l'époque, hein, pendant les 30 Glorieuses, pourquoi on n'y arrive plus là depuis 40 ans ?
Eh bien, on n'y arrive plus parce que, et c'est là où je voulais en venir, en fait, la clé de voûte de tout notre édifice économique, social, de prospérité, c'est uniquement la productivité. La productivité, hein, je vous cite ce que disait Paul Krugman, c'était en 1990, c'est une phrase qui est rentrée dans les annales de la pensée économique. Il disait, Paul Krugman, et il dit toujours, la productivité, ça n'est pas tout, mais sur le long terme, c'est presque tout. Et c'est à cause de la productivité, grâce à la productivité, que les pays peuvent devenir plus prospères et redistribuer tout en restant compétitifs. Or, on était sur une tendance structurelle à la hausse de la productivité jusqu'à la fin des 30 Glorieuses, et c'est après que ça se gâte. Et c'est pour ça que cette conciliation entre prospérité et modèle social généreux était possible dans les pays riches dans les années 60 et qu'elle ne l'était plus après. C'est après le premier choc pétrolier que commence ce qu'on appelle la rupture d'efficacité de la combinaison productive. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est en 1975 que sort un livre fameux publié par Okun qui s'appelle « Equality and Efficiency, the Big Trade-off ». Et oui, c'est là qu'on se commence à se dire que les deux ne sont pas conciliables. Et c'est vrai qu'au cours des deux dernières décennies, la moyenne de l'OCDE en gain de productivité est tombée à 1%. Je vous rappelle que dans les années avant les années 70, on a été à 4,5% de gain de productivité par an. On est tombé à 1%.
Aïe.
Et ça, c'est effectivement la clé de tout.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce qu'on a des outils à notre disposition pour essayer de booster justement cette productivité ?
Eh bien, je crois que le message encourageant qu'on peut apporter, c'est de dire... Demain, cette réconciliation entre l'efficacité et la générosité, elle est possible parce que, allez, on peut dire qu'on va sans doute vers une période de redressement de la productivité. Pourquoi ? Je vous cite une étude du National Bureau of Economic Research américain qui dit que, par exemple, le nouvel environnement de travail hybride pourrait apporter près de 5% de l'augmentation, près de 5% de gains de productivité. Les pénuries de main-d'œuvre vont contraindre aussi à l'efficacité. Il y a la fameuse courbangie de l'innovation. Vous savez, le temps d'adaptation, la productivité baisse et puis après, elle repart en flèche. D'abord, une lente croissance, puis après, ça redémarre. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, les délais sont complètement comprimés. C'est-à-dire que ce qui mettait avant 2, 3, 4, peut-être 10 ans à se diffuser comme nouvelle technologie et comme gain de productivité, vous voyez qu'avec l'intelligence artificielle, on aura un retour sur investissement qui sera beaucoup plus rapide qu'avant. Quand vous mettez tout ça bout à bout, on se dit... Oui, plus de productivité demain, c'est possible. Ça n'est pris en compte par aucune de toutes les projections que vous avez en matière de retraite, par exemple, hein, puisque c'est là aussi ce qui déterminera le niveau de nos retraites. Mmh. Vous n'avez aucune intégration de tout ça dans tous les programmes électoraux.
Oui. Mais ça se décrète ou pas la productivité ? Est-ce que les politiques peuvent décréter un retour de la productivité ?
Alors, vous pouvez créer, si vous voulez, le terreau favorable à la productivité, créer un terrain économique propice à l'innovation. Ça, malheureusement, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. C'est pas vous qui allez faire pousser sur ce terreau. Mais vous pouvez créer un terreau qui donne les conditions. Et après, place à, même pas à l'innovation, place à l'invention. Parce que c'est bien ça le sujet. Je vous cite Jack Welch, l'ancien patron de General Electric, hein, qui avait une phrase absolument formidable. Il disait « The market is bigger than our dreams ». Le marché est plus grand que nos rêves. Donc, il y a beaucoup de choses à rêver, beaucoup de choses à inventer pour, au final... peut-être un modèle social plus juste.
Ouais, ouais. Il m'arrive la nuit de rêver des marchés, même ça, manifestement, c'est pas aussi grand que le marché lui-même. Ouais, c'est magnifique. C'est sur cette phrase qu'on va se quitter. C'est la famille BFM Bourse. Il faut savoir s'envoyer des mots doux, se dire au revoir, et pour mieux se retrouver le lendemain, c'est la famille chaque jour, 16h30, 18h. Emmanuel Lechypre, éditorialiste BFM Business, et ce bullshitomètre à retrouver en replay sur notre application BFM Business dans quelques minutes. On est très très rapide désormais à publier les replays. Merci beaucoup Jean-Louis Delauro.
Et à bientôt, à demain. Hein.
Mais à demain avec
pour ces nouvelles aventures un grand, un immense plaisir, bien sûr. On reviendra sur cette semaine boursière négative, effectivement, sur le CAC 40. Là, depuis lundi, pour l'instant, le CAC 40 perd plus de 1,5%, 2% même, désormais. Et surtout, sur le mois de juin, le CAC perd plus de 5% sur le mois de juin. C'est son pire mois au CAC depuis septembre 2022, mine de rien. Et il sous-performe encore aujourd'hui, d'ailleurs, les autres marchés européens. On fera le bilan demain au cœur de cette famille BFM Bourse. Je vois aussi cet article que vous avez publié sur bfmbourse.com consacré à EuroHappy. EuroHappy, plutôt Euro Unhappy là pour l'instant, puisque le titre perd 3% après un nouvel abaissement des objectifs, un nouvel abaissement, le deuxième de suite. Hein, l'an dernier aussi, ils avaient abaissé leurs objectifs.
Oui, c'est ça,
objectifs.
Ça fait deux années dès qu'ils abaissent leurs objectifs en cours de route. Bon, c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour les actionnaires et ça a quand même complètement dévissé depuis l'entrée en bourse. Hein.
Oui, le titre vaut 4 fois moins qu'à l'introduction en bourse EuroHappy. Euro Unhappy, hein, les actionnaires du groupe, on en parle donc sur cette
partie. Pour acheter au moment de l'introduction en bourse, là, c'est leurs yeux pour pleurer.
Quelle perspective vous interrogez sur l'avenir d'EuroHappy, justement, des réponses dans cet article qui a été mis en ligne sur bfmbourse.com.